Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Galates, l'Épître aux Galates, au chapitre Galates, chapitre 5, et à partir du verset 22 que nous avons récité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, ce soir, nous allons considérer cet aspect du fruit, on pourrait dire ce parfum du fruit, pas cette facette du fruit de l'esprit, qui est la bonté, ou d'autres traductions disent la bénignité. C'est un terme avec lequel il est difficile de faire la différence avec la bonté. Je crois que Timothée nous l'a bien fait remarquer la dernière fois. On peut parfois dans les traductions, elles sont interchangées. Hein, si vous lisez certaines traductions, eh bien vous allez voir que la bienveillance dans le fruit de l'esprit vient après la bonté, puis dans d'autres, elle vient avant la bonté. Et le mot qui est traduit ici par bienveillance est traduit ailleurs trois fois, en comptant cette occurrence dans Galates chapitre 5, est traduit donc deux autres fois par bonté, ici, et puis une fois par disposition. Alors, en Éphésiens 5, verset 9, il est dit: car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est le même mot qu'on traduit ici par bienveillance, qui est traduit par bonté. Et puis en 2 Thessaloniciens, c'est assez étrange parce que 2 Thessaloniciens 1, verset 11, on trouve à la fois le mot bienveillance et bonté côte à côte, mais c'est le mot bonté qui est la traduction d'un autre mot, bienveillance, de Galates 5, 22. Alors il est dit ceci: c'est pourquoi nous aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Donc qualifie les desseins de Dieu de bienveillants et ce sont les desseins bienveillants de la bonté de Dieu. Et c'est le mot qui est traduit par bonté, qui est traduit par bienveillance ici dans notre texte de Galates 5. Et puis il y a un endroit, une occurrence, où il est traduit par le mot disposition. Donc c'est dans Romains chapitre 15, verset 14, où il est dit: pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, capable de vous exhorter les uns les autres. Alors, je vais dire que je vais tenter une petite nuance entre la bonté et la bienveillance en insistant peut-être sur cet aspect de bienveillance, de disposition, pardon, qui a été utilisé pour la traduction dans Romains chapitre 15, verset 14 que nous venons de lire. Donc, on pourrait dire que la bienveillance contient cette idée aussi de disposition favorable de cœur et d'esprit. Il s'agit d'être dans un état de cœur et d'esprit tel qu'elle nous permet de faire du bien, être bienveillant. On pourrait presque dire que le mot caractérise celui qui veille au bien, à faire du bien. On a ce sens-là quand on le lit en français, mais je pense qu'on a ce sens-là quand on lit l'écriture aussi. Donc, il veille dans son esprit et il applique son cœur à faire du bien. Et en Genèse, par exemple, le roi Guérar, qui s'appelle Abimélec, il faut rappeler, à un moment donné, Abraham est parti et avec sa femme était très belle, très très belle, et il avait peur qu'on le tue pour qu'on prenne sa femme. Alors, quand il voyageait ou quand il allait quelque part, il disait, ils avaient conclut une petite alliance, elle devait dire que c'est son frère, et lui, c'est sa sœur. Et à un moment donné, il arrive dans une contrée, le roi de cette contrée, les serviteurs du roi de cette contrée remarquent la beauté de Sarah, et puis ils vont vanter cette beauté auprès de ce roi, qui l'a fait prendre dans son harem. Et puis, bien sûr, le roi, il est frappé, le peuple, Dieu frappe ce peuple-là. Et ce roi vient voir Abraham et puis dit: mais pourquoi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que c'était ta sœur, etc. Et puis donc, il va lui demander de prier Dieu pour lui. Donc Abraham prie Dieu. Dieu arrête une plaie qu'il avait fait éclater déjà sur ce peuple-là. Et Dieu lui dit même à ce serviteur, à ce roi: je t'ai empêché de péché contre elle, parce que j'ai vu effectivement que tu étais, que tu agissais bien. Et donc, ce roi, il va donner beaucoup de choses à Abraham, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. Et puis plus tard, il vient le voir et il lui dit ceci. Il lui dit, jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Et je crois que ce qu'il demande à Abraham ici, c'est d'être dans cette disposition où il ne va pas chercher à lui faire du tort, mais au contraire, de même que lui, il a été bienveillant, qu'il a fourni des choses, il a donné des choses, il l'a accueilli dans le pays, il a permis de s'installer où il voulait dans le pays, eh bien il dit, dis-moi que tu auras cette même disposition, cette même bienveillance à mon égard. Et donc et on pourrait dire que ce mot contient cette idée de disposition favorable, hein. Disposition favorable pour faire ce qui est bien, hein. Il y a l'idée ici de méditer comment on pourrait faire le bien et le mettre en œuvre, indépendamment, on pourrait dire, de la personne ou des circonstances. Alors, vous vous rappelez peut-être de l'exemple de David, lorsqu'il était roi, il cherche, et à un moment donné, il pense à Jonathan, et puis il pose cette question, il dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. On pourrait dire, d'autres textes disent de la bienveillance de Dieu. Et on lui dit, il reste encore un fils à Jonathan, Méphibosheth, et il est perclus des pieds. Alors David dit, mais envoyez-le chercher ici. Et on voit que ici, David, dans sa bonté, dans sa bienveillance, il va chercher du bien à faire. Il n'est pas dans une attitude passive où il attend qu'une occasion se présente pour qu'il puisse faire quelque chose, mais il va, comme on dit, provoquer, créer l'occasion. Il va, il veut faire du bien et il va chercher, méditer, penser comment il va le faire. Et bon, aussi, on le voit dans le passage quand on lit tout, comment il va le mettre en œuvre. Alors, on va chercher Mephibosheth. Mephibosheth arrive et il a peur parce qu'il va devant le roi le convoque, il peut penser qu'il sera tué. Et David lui dit, ne crains point. Donc ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 9, verset, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'était verset 3, maintenant c'est le verset 7. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Et il y a cette idée, donc on est disposé, mais avec une volonté, vraiment, c'est très actif, de produire, de faire du bien à l'autre, à cause de Jonathan, ton père. Et il a décidé de lui faire du bien avant même qu'il le connaisse, il ne savait pas, il a dit, y a-t-il quelqu'un? C'est-à-dire que lui-même, il n'était pas au courant. Et on lui mène quelqu'un qui est infirme, hein, c'est pas quelqu'un qui est infirme, et là il dit, voilà, je veux te faire du bien. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir qu'il était tous les jours invité à la table du roi et qu'il mangeait les mets du roi. Donc voilà, j'essayais de cerner un petit peu, et tenter un petit peu une nuance entre la bonté et puis la bienveillance, mais c'est vrai que ça englobe un peu la même chose, mais il y a cette idée peut-être d'une attitude dans laquelle on se trouve, une disposition de cœur, un élan, un épanchement pour chercher et méditer comment on va faire du bien. Et donc on pourrait dire une chose, plusieurs choses ce soir, c'est que Dieu est bienveillant, on le voit dans l'Écriture, et il est la source, comme pour tous les autres aspects du fruit de l'esprit, de la bienveillance. La bienveillance, c'est le fruit de l'esprit. Et donc, elle trouve sa source en Dieu, ici. Psaume 106, 4, nous lisons, l'Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Donc, il est question ici de la bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant. Dieu apparaît en songe à Salomon, vous rappelez-vous, et puis il lui pose cette question, il lui dit, dis-moi ce que tu veux que je te fasse. Et Salomon dit à Dieu, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence et dans ta fidélité, dans ta justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Il dit, Dieu, tu as été bienveillant Mais en plus, tu as continué, tu as une bienveillance, tu as manifesté d'une bienveillance continuelle. Donc Dieu est bienveillant et décrit dans l'Écriture comme étant bienveillant, comme étant bien disposé, on pourrait dire ici, hein, disposé à faire du bien. Et lorsque dans le prophète Jérémie, on lit ce que Dieu dit concernant cette nouvelle alliance qu'il va établir avec son peuple, eh bien, on lit ceci, Jérémie 32, versets 40 et 42. Il est dit, je traiterai, Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, je traiterai avec eux, peuple Israël, une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Ici, on voit donc que Dieu, il montre sa bienveillance ici dans les alliances hein, qu'il établit même avec son peuple et il dit ceci, je leur ferai du bien. On peut dire là, il manifeste sa bienveillance, son désir de bonté. Il dit, et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement de ce pays, de tout mon cœur, de toute mon âme. C'est Dieu qui parle ainsi, hein. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Et donc Dieu est disposé vraiment à faire le bien. L'Écriture le présente comme un Dieu qui est disposé, qui prend plaisir même à faire le bien, un Dieu bienveillant. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, parle des desseins bienveillants de Dieu. Non seulement Dieu est bienveillant, mais quand il conçoit, quand il pense, quand il dessine, il le fait dans sa bienveillance. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, nous prions, il dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Non seulement Dieu forme des projets, mais il le fait avec ce désir de faire du bien. Et on trouve cela aussi dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1,11, hein, dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, où il est question des desseins bienveillants de sa bonté. Ailleurs, cette expression bienveillant dessein est traduite par bon plaisir. Par exemple, dans Philippiens 2,13, que vous connaissez, il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est-à-dire qu'il le fait avec le désir de le faire et de faire du bien, hein, cette disposition à faire du bien. Et donc Jésus a encouragé à ses disciples, n'est-ce pas, à frapper, à demander, à prier, et on le voit dans les évangiles, parce que il dit, votre Père, Dieu le Père est un Dieu qui est bienveillant, qui est disposé à vous faire du bien et à donner à ceux qui lui demandent. Et il présente Dieu comme étant disposé favorablement à offrir et à donner à celui qui frappe, à celui qui demande. Donc Dieu est un Dieu bienveillant, il est plein de bonnes dispositions au salut, on le voit des hommes, hein. Il est le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Et il est la source même, comme on l'a vu, de tous les aspects du fruit de l'esprit, de la bonté et aussi ici de la bienveillance. Donc la source de la bienveillance, bien sûr, étant Dieu. Et Dieu est présenté dans l'Écriture comme un Dieu disposé favorablement à l'égard des hommes pour leur faire du bien. On pourrait lire d'autres passages, mais bon, je pense que je vais arrêter là avec ce point. Deuxième chose, on peut voir aussi dans l'Écriture que la bienveillance n'est pas naturel à l'homme. D'abord, si l'Écriture dit que le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance, c'est que la bienveillance n'est pas naturelle à l'homme. Et donc le cœur de l'homme est entaché par le péché et sa disposition naturelle est toujours vers le mal. C'est ce que la Bible dit. Alors je sais que ça ne plaît pas aux hommes d'entendre cela. On pense toujours qu'il y a du bon, comme Timothée nous l'a fait remarquer l'autre soir, du bon dans l'homme et que c'est la société qui le corrompt. Mais l'Écriture s'inscrit en faux contre cela. L'Écriture dit que, déjà dès la Genèse, que l'Éternel voit la méchanceté dans les hommes, que cette méchanceté était grande, et il dit que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y a qu'une seule direction dans laquelle ils sont disposés, c'est vers le mal. Et c'est le constat que fait Dieu lui-même. Et le prophète Jérémie emploie une image très parlante pour montrer cette incapacité de l'homme naturel à faire le bien, à être bien disposé, à être bienveillant. Il prend l'exemple d'un Éthiopien et d'un léopard. Il dit en Jérémie 13, 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et donc le prophète Jérémie ici met le peuple devant une impossibilité. Il dit, vous ne pouvez pas faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, de même que l'Éthiopien ne peut pas changer sa peau, ni le léopard enlever ses taches. Quelque part, c'est comme s'il disait, le jour où un Éthiopien au noir pourra changer la couleur de sa peau, on pourrait le dire comme ça, ou qu'un léopard pourra enlever ses taches, vous pourrez, à ce moment-là, de vous-même, faire ce qui est bien. Mais c'est une manière de leur dire, c'est impossible. C'est impossible. D'accord ? Mais la Bible dit que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Dieu peut faire et rendre les hommes, bien sûr, avec des cœurs capables par son esprit d'être bienveillants, pleins de bonnes dispositions. L'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 7, verset 18, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le... la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et il parle ici de sa chair, ici, c'est représentant cette nature non régénérée dans laquelle le Saint-Esprit n'habite pas. Et il dit que cette chair, il parle de cette chair, on avait vu, dont les désirs sont opposés à ceux de l'Esprit et dont les œuvres sont décrites dans les versets précédents, dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Ici, et il dit que cette chair n'a pas le pouvoir de faire le bien. Elle n'a pas cette disposition de cœur et d'esprit tournée à l'égard du bien. Et quelqu'un a dit, résumé cette pensée ainsi, il a dit qu'il n'y a aucun bien chez l'homme dépourvu de l'Esprit Saint. Il n'y a aucun bien chez l'homme qui est dépourvu de l'Esprit Saint. Parce que c'est une disposition qui est le fruit de l'Esprit et que donne l'Esprit. Donc la bienveillance nécessite la présence de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dans une vie. Et puis, je termine avec ça. Troisièmement, le disciple, on voit que les disciples sont appelés, les chrétiens sont appelés à la bienveillance, à pratiquer la bienveillance. Galates chapitre 6, verset 10, nous lisons « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. » Et le bien, le terme qui est décrit par « bien » ici, c'est le terme duquel vient le mot « bienveillance » que nous avons lu dans Galates 5, verset 22. Il dit donc, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et donc, les Galates sont appelés à cette bienveillance et les chrétiens sont appelés à cette bienveillance parce qu'ils ont, du fait même que l'Esprit de Dieu vit en eux, la capacité maintenant de pouvoir être disposés favorablement et de faire le bien tel que l'Écriture le commande. Ils doivent donc saisir ici les occasions de manifester cette disposition bienveillante à l'égard de tous, l'apôtre Paul dit, tous sans exception, et en particulier à l'égard des autres croyants. Donc la bienveillance qui est requise, elle ne consiste pas à rendre le bien à ceux qui nous font du bien, mais à faire du bien, à être bien disposé à l'égard de tous. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à ses disciples. Il a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, de quel gré vous sera-t-on? Il dit, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Il dit, vous ne faites rien de spirituel, de surnaturel ici. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, de quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent ainsi. Il dit, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, vous ne faites rien d'extraordinaire ici. Il dit que les pécheurs sont capables de faire cela. Il dit, mais vous, soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Dans l'évangile de Matthieu, il dit, faites du bien à ceux qui vous maudissent, etc. Priez pour eux. Il dit, voilà, faites des choses qui témoignent que vous avez vraiment l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Et donc ici, l'apôtre Paul dit, pratiquons le bien envers tous, et particulièrement envers les frères dans la foi. Dieu agit sans considération de personne, et il appelle ses enfants aussi à faire de même et à disposer, à dispenser le bien, c'est-à-dire l'évangile, les bonnes choses autour de nous. Dispenser le message du salut, mais aussi le bien sous toutes ses formes. Le pardon et la patience envers les autres, le support, etc. Toutes ces choses font partie du bien que l'on peut dispenser autour de soi. Donc la bienveillance, elle doit être exercée par le croyant qui est appelé à l'exercer, bien sûr, mais elle doit être exercée sans relâchement. Il y a des choses qui peuvent être des sujets au relâchement dans le bien que nous pouvons faire. Et Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et peut-être un domaine dans lequel on pourrait se relâcher, c'est celui de... dans l'évangélisation, quand on voit parfois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de fruits. On peut imaginer des équipes, même missionnaires, qui sont plantées quelque part, implantées quelque part, et puis ça semble être difficile avant que les gens se tournent vers le Seigneur. Eh bien, on peut se lasser de faire le bien et être découragé et ne plus vouloir partager ce grand bien qu'est l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit ici aux Galates, « Nous moissonnerons au temps convenable. » Dieu a un temps pour la moisson. Pour l'instant, ne nous lassons pas d'être bienveillants, d'être disposés à dispenser le message de l'Évangile. Et puis, un autre cas où on peut être dans le relâchement concernant le bien que l'on doit faire, c'est dans, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13, par exemple, qui dit « Pour nous, frères, ne vous lassez point de faire le bien. » Pour vous, frères, ne vous lassez point de faire le bien. Et l'apôtre Paul parle à une église dans laquelle il y avait des gens qui ne travaillaient pas. Et pour de bonnes raisons. Et puis il y en avait d'autres qui ne travaillaient pas pour de mauvaises raisons. Et qui étaient paresseux. Et il parle à ces personnes-là, il les exhorte, il dit qu'ils doivent travailler, manger leur propre pain, faire des efforts. Et puis il dit à ceux qui travaillaient et qui soutenaient ceux qui étaient vraiment des vrais nécessiteux, eh bien ne vous laissez pas décourager par les parasites. Hein. Et parfois, je veux dire, il peut avoir, on peut être relâché dans le fait de faire le bien, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui en profitent et puis qui ne devraient pas, ou des gens qui en bénéficient qui ne devraient pas bénéficier, surtout dans les aides que l'on peut apporter, les aides financières que l'on peut apporter aux autres. Et Paul dit non, il faut continuer à soutenir ceux qui sont vraiment dans le besoin, continuer à faire le bien de cette manière-là, sans vous relâcher, sans vous laisser décourager par ceux qui sont paresseux. Donc il exhorte ces personnes à aller travailler, et puis il exhorte les travailleurs qui faisaient du bien à continuer à le faire. Et donc nous sommes tous encouragé dans beaucoup de domaines à montrer cette bienveillance, cette disposition de cœur, je crois, et d'esprit qui nous pousse à faire du bien et toutes sortes de bien autour de nous, que ce soit la propagation de l'Évangile, mais aussi l'assistance que nous pouvons apporter aux autres, l'aide que nous pouvons apporter aux autres, et ainsi être de développer le caractère de Dieu notre Père qui, la Bible dit, lui fait pleuvoir sur les bons et même sur les méchants. Nous devons le faire sans distinction de personne. Voilà, que le Seigneur nous aide à considérer ce fruit de l'esprit, cette bienveillance qui caractérise, qui doit caractériser le chrétien dans sa marche. Et si nous voyons que nous ne le sommes pas, mais nous pouvons prier Dieu pour que ce fruit puisse, cet aspect du fruit puisse se développer et à arriver à maturité dans notre vie de tous les jours. Donc le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance, cette disposition de cœur et d'esprit à faire ce qui est bien et le faire effectivement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce que tu nous permets de saisir dans ta parole. Merci d'avoir de nous avoir donné l'Esprit Saint qui habite en nous et qui produit ce fruit dans notre vie. Merci pour l'amour, pour la joie, pour la paix, pour la patience, pour la bonté, pour la bienveillance, pour la foi, pour la douceur et pour la maîtrise de soi. Seigneur, c'est toi qui agis en nous et qui produit en nous le vouloir et le faire. Et donne-nous en même temps d'être obéissants et de pratiquer le bien envers tous, d'être dans cette disposition de cœur et d'esprit où nous recherchons le bien des autres. Comme toi, tu as recherché notre bien, Seigneur, en envoyant Jésus-Christ, ton Fils, pour nous racheter de nos péchés. Seigneur, que nous puissions être de ceux qui partageons ta parole, que nous puissions avoir un caractère qui ressemble de plus en plus au tien et que cela soit un témoignage puissant pour attirer par ta grâce les hommes et les femmes vers toi. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton peuple.